Matinale de Radio Classique avec David Abiker.
C'est l'heure de retrouver nos esprits libres sur Radio Classique à 8h45. Bonjour Sophie Obadia.
Bonjour David.
Bonjour Nicolas Bavrez, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes tous les deux avocats, il me semble.
Et oui, nous sommes confrères.
Hein? Bon, on a deux avocats. Dans le studio, aujourd'hui, c'est la une des Échos ce matin qui nous interpelle. Compte public, la France manque de crédibilité. Le Fonds monétaire international ne croit pas au programme de stabilité français et aux objectifs que s'est fixé. Merci pour 2027. Nicolas Bavrez, comment expliquez-vous que la France ne tire pas davantage les conclusions de sa situation financière pointée hier et aujourd'hui par le Haut Conseil des Finances Publiques, par le premier président de la Cour des Comptes?
Alors le FMI et la Cour des Comptes ont raison, c'est-à-dire que d'abord la France a perdu le contrôle de ses finances publiques. En ce moment, comme vous le savez, c'est le cinquantenaire de la disparition de Georges Pompidou. Le dernier budget en excédence, c'est 73 avec plus 0,2% du PIB. Depuis, nous avons aligné 50 ans de déficit et ça, c'est vraiment une exception parmi les pays développés. Et nous rentrons dans un moment où la dette devient insoutenable. Pourquoi ? Parce que la dette est insoutenable quand la croissance nominale est inférieure au taux d'intérêt. Donc les taux de la BCE sont autour de 4%, les taux qu'acquitte le Trésor français, c'est autour de 3%, la croissance, c'est 0,7%, l'inflation maintenant, c'est 2%. Donc nous sommes rentrés dans ce moment où la dette française devient insoutenable d'un point de vue financier. Elle est aussi insoutenable d'un point de vue économique, puisque notre pays, on est maintenant une espèce de cercle diabolique avec une croissance donc très faible, des gains de productivité qui baissent de 6% depuis 2019, un chômage qui remonte à 8%, un déficit commercial structurel de 100 milliards et un déficit en grande partie structurel aussi d'à peu près 5% du PIB. Donc nous sommes maintenant dans un moment critique. Il est vrai que la classe politique est dans le déni. Ce qui a été dit par le président de la République, selon lequel on n'a pas de problème de dépenses mais simplement un problème de recettes, c'est à la fois faux et c'est dangereux parce que les agences de notation, en fait, j'allais dire, ne nous dégradaient pas plus parce qu'il y a une tolérance à l'impôt dans ce pays qui est incroyable. Il y a 52% du PIB de recettes publiques et en fait, le seul point où l'administration française est compétente, c'est pour faire rentrer l'impôt. Et donc, si on commence à expliquer qu'on n'y arrive pas, je pense que il y a une très forte chance que la France soit dégradée. Et l'autre raison du déni, c'est tout simplement parce que aujourd'hui, il n'y a ni la volonté, ni la capacité à baisser les dépenses publiques dans notre pays.
Question aux avocats sur la communication budgétaire de la France en longue période. On a le sentiment que on se sert des finances publiques pour tirer la sonnette d'alarme, mais pour se positionner comme Monsieur Père la Rigueur ou l'homme du sérieux, et donc de façon très conjoncturelle en fonction d'objectifs politiques, ou alors on crie au feu en se demandant si il y a une stratégie derrière. Il n'y a pas de discours constant, de même qu'il n'y a pas de politique constante, visiblement.
Vous avez raison. Ça revient comme un serpent de mer, mais jamais nous n'entendons parler des solutions. Jamais les points précis sur lesquels nous devons faire porter l'effort ne nous sont vraiment décrits. C'est ça qui est embêtant, parce que, par exemple, la baisse de la productivité, c'est une vraie difficulté. La balance commerciale française, c'est une vraie difficulté. Personne n'en parle jamais de façon rigoureuse, précise, avec des chiffres qui pourraient nous entraîner à voir la vie autrement, à consommer différemment, par exemple.
Oui.
Non, mais c'est très juste, c'est le grand paradoxe. C'est-à-dire que ce problème économique, c'est vraiment le cœur du problème français et de l'effondrement de la puissance française. Et c'est ce dont on n'a pas parlé, ni pendant la campagne présidentielle, ni pendant la campagne législative. On n'en parle pas davantage pendant la campagne des
élections. Je prends le cas de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire tire la sonnette d'alarme il y a deux mois. On lui dit, ah ouais, alors, quel opportunisme, tu te positionnes pour 2027. Et puis ensuite, on lui dit, tu vas nous gâcher les européennes et tu vas plomber l'ambiance. Et on va les perdre. Donc en fait, quand on parle de finances publiques, c'est jamais le moment. On va inquiéter les Français, on fait de la politique politicienne, mais en fait, l'intérêt du pays n'est pas en question.
Non, mais il y a quand même un problème de légitimité. Emmanuel Macron et Bruno Le Maire sont les hommes de 1000 milliards de dettes sur les 3100 milliards de dettes françaises.
Oui, mais à ce moment-là, c'est les hommes de la paix sociale pendant le Covid pendant une période très tendue.
La Covid, c'est que 220 milliards sur les 1000. Et donc,
il y a les gilets jaunes aussi.
Oui, mais les gilets jaunes, ils ont été, je rappelle, provoqués par la montée des taxes. Donc c'est là où c'est une jacquerie fiscale. Et donc, de même que regardez ce qui s'est passé pour les agriculteurs, on oublie toujours. Les agriculteurs, c'est d'abord un problème la taxe sur les carburants qui est le déclencheur. Donc si vous voulez, cette course diabolique aux dépenses et aux impôts, et quand on voit aujourd'hui qu'il y a une partie de la majorité qui explique qu'il faut monter les taxes, et que Bruno Le Maire compte traiter le problème des finances publiques françaises avec une taxe sur les milliardaires, mais on est complètement à côté de la plaque. Vous savez, Jacques Rueff, il avait une belle formule, il disait « Soyez libéraux, soyez socialistes, mais ne soyez pas menteurs ».
Jacques Rueff, l'homme du plan Pinérus.
Exactement, des réformes de 58. Ben, je crois que cette maxime est tout à fait d'actualité.
Hier, sur Radio Classique, François Vidal donnait le chiffre du déficit budgétaire américain. On va faire un peu de politique comparée. 1700 milliards de dollars, ça représente plus de 6% du PIB. Nous, on est à 5% du PIB pour notre déficit budgétaire. La croissance américaine, avec ce déficit-là, elle est au rendez-vous. Et donc, ça suggérerait qu'il y a du déficit, celui qui crée de la croissance ou qui l'accompagne, et puis du mauvais déficit, celui qui court après la croissance, c'est la situation française. Alors, comment comprendre la politique américaine ?
Alors, d'abord, il faut dire que les États-Unis ont aussi clairement un problème d'endettement et de maîtrise de la dette. Mais simplement chez eux, c'est vrai que cette dette n'a pas été utilisée de la même manière. Chez nous, on a vraiment dilapidé et c'est un argent qui ne rapporte rien et qu'on n'avait pas. Aux États-Unis, ils ont investi. Donc il y a deux choses qui sont très importantes. C'est que la croissance aux États-Unis, c'est 2,7% contre 0,7% chez nous et qu'ils sont en train de reconstruire leur industrie. C'est-à-dire que l'énergie est un tiers moins chère qu'en Europe et que cet argent, à travers les trois grands programmes, infrastructure, le programme sur les puces, les semi-conducteurs et surtout l'IRA, est investi pour réindustrialiser les États-Unis avec une idée qui est une idée vraiment intelligente, qui est réindustrialisation, révolution numérique, transition écologique et stabilisation de la classe moyenne. Et ça, c'est vrai que c'est en train de...
C'est eux les socialistes, en fait. C'est eux les keynésiens.
Ah, c'est du keynésien. Oui, mais je rappelle que on a plusieurs... Reagan, qui était censé être le... Reagan a été un grand keynésien quand on regarde les dépenses, mais il a remis l'Amérique en route. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une machine de guerre américaine, alors en plus adossée au dollar, adossée aux tensions internationales qui font qu'il y a l'effet refuge, et on voit les investissements. L'industrie européenne est en train de se relocaliser aux États-Unis.
Sophie Obadia, vous vouliez nous parler de l'île 3, qui devait accueillir une conférence de Jean-Luc Mélenchon avec la militante pro-palestinienne Rima Hassan. Surprise, l'université annule la conférence. Tout à l'heure, David Doucan, dans son édito politique de 7h25, dans les coulisses de la politique, il disait « les bloqueurs bloqués ».
Oui, c'est une bonne formule. Mais vous savez, ce n'est pas nouveau. J'ai l'impression que dans les universités, finalement, on communique plus maintenant qu'on étudie. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en permanence, il y a ce type de polémique, des annulations, des reports de réunions. Ça a commencé avec Sciences Po, notamment, en province, avec les wokistes qui avaient décidé qu'on ne pouvait pas parler de tel ou tel sujet. Et maintenant, chacun se renvoie la balle. C'est l'Uni à Marseille ou à Aix. Et maintenant, c'est... on le dit, certains groupements pro-israéliens qui auraient empêché la tenue de cette conférence.
Pro-israélien.
Qui auraient empêché. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis fondée sur le comité de presse de l'université qui dit en définitive, nous voulions assurer la liberté d'expression, mais l'escalade militaire intervenue les 13 et 14 avril nous en empêche. Vous comprenez ? C'est-à-dire que...
Ils enjambent une association pro-israélienne.
Alors, une association...
Qui voulait donner son point de vue sur place.
Mais la vraie difficulté, c'est que l'association qui était associée à Jean-Luc Mélenchon, c'est une association créée ex nihilo qui s'appelle Libre Palestine. Je suis allée regarder, il n'y a pas grand-chose encore. Elle est en train de naître. Autrement dit, elle sert les intérêts de Jean-Luc Mélenchon. Et donc, c'est une association qui dit qu'elle éveille les consciences à l'action solidaire au sein de l'université de Lille pour soutenir avec des dons les Palestiniens. Bon, donc ça pose une vraie difficulté parce que le logo, c'est le logo en fait qui a fait tilter dans cette affaire.
Oui, tout est symbole.
C'est le symbole, c'est-à-dire que c'est un mini dessin qui effectivement gomme complètement de la carte Israël. Donc l'université s'est dit, là quand même, on a une image forte dès l'annonce de la réunion qui peut provoquer des remous. Parce que vous avez compris que les annulations ou les interdictions, diront les membres du parti LFI, c'est une interdiction, c'est une censure, c'est en général pour éviter les attroupements, le coup de poing. C'est classique, j'ai envie de dire. C'est assez classique. Mais ça pose quand même la question de la liberté d'expression et du droit de réunion.
Ben, c'est Nicolas Bavresse qui, hier, me disait au téléphone les censures ne s'annulent pas, elles s'additionnent.
C'est pas faux.
Et tout le monde y perd. Et je crois que c'est une formule aussi d'Hervé Gattegno.
Puisqu'on va parler aussi de Bruxelles, et de Zemmour.
Ouais. Oui, mais c'est vrai que nous vivons un moment où la liberté d'expression est quand même tout à fait attaquée, et où l'ordre public quand même devient extrêmement...
Il a bandeau.
Devient extrêmement large. Et on a cette espèce d'enfermement communautaire où chacun défend ces espèces de précarés, mais qui sont aussi des précarés, j'allais dire, des lieux où ne peuvent parler que les uns ou les autres. Ça, c'est clairement pas possible. Je note d'ailleurs que pour Jean-Luc Mélenchon, la solution qui est trouvée me semble la bonne, je vais y venir, parce que il va pouvoir tenir cette réunion, et c'est très important.
Aujourd'hui même, revanche, il va la tenir aujourd'hui, voilà. Mais il a trouvé un local à Bruxelles.
Le fait de tenir des meetings politiques dans des lieux universitaires, ça pose un vrai problème. Et donc l'université a eu parfaitement raison. Pourquoi ? C'est Max Weber qui disait que la politique n'a pas sa place dans la salle de cours d'une université. Et donc évidemment qu'il faut qu'il y ait du débat. Mais l'université, c'est la recherche, le savoir, et évidemment tout ceci de manière critique.
Sophie.
Mais on ne peut pas avoir le militantisme qui prend le contrôle des universités.
Allez en parler aux 68. Alors, Sophie Obadia, juste une chose, à Bruxelles, il s'est passé la même chose qu'à Lille.
Oui,
c'était pas dans une université.
Et mais c'est Zemmour, la différence fondamentale.
Zemmour, le Premier ministre hongrois, et j'oublie le troisième, Nigel Farage, le Brexiteur anglais, ont été privés de réunions publiques par le maire de Bruxelles.
Alors, en fait, ce sont deux jours de réunion dans un hôtel. Pas du tout la même chose.
Ben, en plus, c'est pire.
Non, c'est pas pire. C'est-à-dire que les partis politiques peuvent se regrouper là où ils le veulent, mais effectivement, le fait que ça se passe dans l'université, alors que les activités fondamentales, c'est l'enseignement et la recherche, finissent par poser une question. Comme je vous le disais, j'ai l'impression qu'on passe plus de temps à polémiquer qu'à enseigner maintenant dans les universités. En revanche, à Bruxelles, ils ont obtenu, en référé du Conseil d'État belge, de pouvoir continuer leur réunion, parce qu'elle avait commencé lorsqu'elle était interdite. C'est pas du tout le même cas de figure. Mais dans tous les cas, la question de la liberté d'expression se pose, la liberté de réunion se pose, mais hors l'université, me semble-t-il, c'est certainement beaucoup plus sain.
Cher Nicolas, chère Sophie, merci à vous, à bientôt. Je vous propose de nous séparer avec Léopold Stokowski, c'est le seul chef d'orchestre à avoir serré la main de Mickey, puisqu'on les voit tous les deux au début de Fantasia. Léopold Stokowski, né à Londres un 18 avril 1882, on l'écoute diriger l'orchestre de Philadelphie pour Fantasia, c'est l'apprenti sorcier.